musiciens et leurs mécènes. Une approche culturelle et historique des relations entre les compositeurs et leurs commanditaires. Une émission de Daniel Cabanis.
Cet après-midi, nous allons aborder le cas très particulier d'un mécène qui est musicien lui-même. Nous allons donc parler de la musique à la cour de Frédéric II. Il disait « J'ai aimé dès mon enfance les arts, les lettres et les sciences. Et lorsque je puis contribuer à les propager, je m'y porte avec toute l'ardeur dont je suis capable, parce que dans ce monde, il n'y a pas de vrai bonheur sans eux. » Déjà enfant, Frédéric II était intéressé par les arts et en particulier la musique, mais les difficultés ont été grandes pour lui pour s'y adonner parce que son père, le roi soldat, détestait les arts, la musique, la France. Et pourtant, il l'a entouré de précepteurs français et sa mère, gentiment complice, lui a fait obtenir les leçons de flûte d'un flûtiste qui travaillait à la cour de Saxe, qui a été débauché sur fonds secrets de la reine, ce qui est assez rigolo, pour venir enseigner. Et il a donné des leçons à Frédéric II, qui était encore un très très jeune prince, et il restera toujours attaché à sa personne, car il avait absolument besoin d'avoir quelqu'un pour l'encourager et le conseiller. Les rapports sont si mauvais entre le père et le fils que le roi exile son fils dans un château un peu à l'écart de Berlin. Mais là, au moins, il a un peu plus de liberté. Et écrivant à sa sœur, Frédéric lui raconte ses occupations, les passe-temps par lesquels il s'efforce de tromper son ennui. « Je lis et écris comme un forçat, et je musique pour quatre. J'ai avancé dans la composition jusqu'à faire une symphonie. Je me mets aussi dans le jardinage et j'ai commencé à me faire un jardin. » Il n'est pourtant pas satisfait de ses compositions. J'ai eu beau faire tous mes efforts. Je n'ai pu encore trouver une harmonie digne de vous être offerte. Nous allons en écouter un extrait. La vie d'exilé est en fait une vie dorée parce que, comme je le disais tout à l'heure, on y est absolument libre. On y joue la comédie, on y compose et y joue de la musique et on voit à peu près qui on veut. Et c'est à cette époque-là que Frédéric, le futur Frédéric II va littéralement s'enticher de Voltaire et un grand portrait de Voltaire trône dans le plus grand salon du château. Mais toutes les soirées sont réservées à la musique. Il est désireux d'avoir les meilleurs musiciens, il a d'excellents violonistes autour de lui et grâce à cela, il parvient à avoir une qualité d'exécution tout à fait remarquable. Il a Graun, il a Benda, bref, des gens de très très grande qualité, ce qui lui permet d'attirer de plus en plus de monde. Alors le problème, c'est que ça coûte très cher. Et le roi soldat donne peu d'argent à son fils, ce qui fait qu'il est en réalité financé par ses futurs collègues, si j'ose dire, l'empereur d'Autriche, via un ambassadeur, lui file quelques menus monnaie. Le roi de Saxe également, ils n'en seront pas récompensés puisque Frédéric leur fera plus tard une guerre absolument féroce. Grand est prié d'écrire la musique pour les obsèques du roi soldat et il reçoit contre cela la direction de la chapelle. D'autres artistes viendront encore, ainsi un frère du premier Benda qu'il avait formé dans sa prime jeunesse. Philippe-Emmanuel Bach est aussi de la partie et tous ces musiciens bénéficient d'un statut extrêmement agréable. Bien entendu, ils sont nourris, logés, plus un certain nombre de cadeaux de prestige, ne serait-ce qu'un nouveau pourpoint, que sais-je encore. Mais ils touchent des appointements de 2000 thalers chaque année, ce qui est une somme considérable, qui est d'ailleurs la somme que le successeur de Frédéric II proposa en vain à Mozart pour l'attirer à Berlin. Les compositeurs, les musiciens cherchent aussi à élargir le champ d'activité musicale et par exemple Graun doit aller en Italie pour recruter une troupe d'opéra qu'il va diriger et avec tous ces artistes, des fêtes extraordinaires ont toujours lieu dans le château et ensuite à Berlin puisqu'il y est revenu avant de construire sans souci. Le résultat, c'est que l'animation est toujours extrêmement grande dans la cour avec toujours extraordinairement de succès, avec, soyons un petit peu ironiques, le fait que pour pas mal d'observateurs, on ne peut pas dire autre chose que les compositions du roi sont excellentes, qu'il a une finesse et une imagination exceptionnelles. En réalité, il est loin derrière les musiciens qu'il paie et qui travaillent pour lui. Donc, il faut être un peu critique, même si ce n'est pas tout à fait inintéressant. Mais il aime tellement sa musique qu'il préfère se lever très tôt le matin pour travailler à son métier de roi, pour avoir toutes ses soirées libres pour l'opéra, ce qui est évidemment tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable. Le temps passant, il est de plus en plus intéressé par le théâtre également, et on sait qu'il a abondamment et souvent joué des pièces, et toujours des pièces en français, parce que Frédéric II ne veut parler que le français, entend comme la grande Catherine à Saint-Pétersbourg qu'on ne parle que français à sa cour et considère que l'allemand vient en deuxième ligne. Et s'il a encouragé le développement de la musique allemande, il n'a pas du tout encouragé la littérature allemande. Il n'y a pas sous son règne de grand créateur qui ait pu bénéficier de son soutien ou d'une manière ou d'une autre d'une promotion quelconque. Il aime la France et rien que la France, ce qui lui vaudra évidemment un certain nombre de critiques. Et il essaye d'utiliser toutes ses relations, notamment Voltaire déjà mentionné, pour attirer à sa cour des acteurs ou des chanteurs importants. Il va même s'enticher d'un castrat, Porporino, et il obtiendra, grâce aux prestations de ce Porporino, une réputation d'ouverture qu'il essaye par laquelle il essaye de surclasser Hambourg, qui était le centre de la musique, et notamment de la musique italienne, dans l'Allemagne du Nord de son temps. Donc c'est de ce point de vue-là une réussite. Il parvient à obtenir Hasse, qui travaillait à la cour du roi de Pologne. Il le couvre littéralement d'or, et grâce à cela, Hasse compose pour lui, et il y a un certain nombre de prestations extrêmement réussies à la cour. Donc ces soirées musicales sont tout à fait fabuleuses, et même il arrive à obtenir, ce qui était courant en Allemagne, que à ses côtés, qui tient la flûte, d'autres princes jouent. Ainsi, le prince de Brunswick joue du violoncelle. Kanz, son compositeur préféré, tient la seconde flûte. Donc on a toute une série de représentations qui sont remarquables. Ce qui va arrêter Frédéric dans l'exécution, c'est qu'à l'époque, ça ne se soignait guère, il perd ses dents. Donc, alors qu'il avait, paraît-il, une embouche exceptionnelle pour la flûte, eh ben, il ne peut plus, faute de dents. Il n'a pas eu la chance du dernier archevêque de Narbonne d'avoir déjà un dentier articulé qui lui aurait permis de continuer. Donc il doit s'arrêter, et il continuera à financer des compositeurs et des exécutants, mais il ne parviendra pas à aller au-delà. À cela s'ajoute que la guerre lui prend de plus en plus de temps, et que vraisemblablement il aurait été difficile d'avoir une qualité de composition et sans doute de maintenir un vraiment bon niveau d'exécution. Philippe-Emmanuel Bach sera son maître de musique, et il improvise souvent pour le roi, notamment quand le roi, fatigué, malade, lui demande une espèce de dérivatif à sa mélancolie. Il lui fait restaurer les orgues de Berlin, et c'est dans ce contexte-là que seront jouées encore à la fin du XVIIIe, alors qu'ailleurs c'est pratiquement disparu, les œuvres pour orgue de Jean-Sébastien Bach.